le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine citoyen et on s'intéresse ce midi à l'enquête Bien dans mes claquettes menée auprès des jeunes de 3e de la province Sud. Les résultats de l'étude ont été publiés dernièrement et pour en parler, nous recevons ce midi Gilles Brial, 2e vice-président de la province Sud en charge de l'enseignement. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Carmela Rebouillat, chargée de mission stratégie jeunesse à la province Sud. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes aussi avec Erika Hartmann, épidémiologiste et biostatisticienne à l'Agence sanitaire et sociale. Bonjour.
Bonjour.
Et Thierry Vincent du vice-rectorat, inspecteur académique, établissement et vie scolaire. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous tous les quatre ce midi pour effectivement commenter les résultats de cette étude Bien dans mes claquettes. Avant de revenir sur le détail, peut-être présenter l'étude puisque c'est la 2e édition qui a été menée. Gilles Brial, qu'est-ce que c'est concrètement cette étude Bien dans mes claquettes ?
En fait, on est nombreux à s'occuper de la jeunesse en Nouvelle-Calédonie, que ce soit les collectivités, les provinces, gouvernements, les communes, mais pas que, il y a tout le système éducatif, et après, on a les associations sportives, culturelles, les centres de vacances. Donc, on est nombreux à intervenir dans les périodes de loisirs, dans les périodes scolaires, auprès des jeunes. Et on avait besoin de mettre en place un outil d'évaluation de nos politiques, parce qu'il y a une partie importante de la jeunesse qui va bien, mais on en a une petite partie qui va mal, avec des consommations d'alcool, de drogue, avec des absences à l'école, avec des faits de violence ou des victimes de violence. Et c'était important pour nous d'avoir une étude qui soit régulière, donc on va faire tous les 2 ans, donc c'est la 2e année qu'elle se tient, dans l'ensemble des classes de 3e des collèges de la province sud, qu'ils soient publics ou privés. Et on s'est basé sur le modèle islandais. Pourquoi l'Islande ? Parce qu'il y a une 20aine d'années, l'Islande était très en retard sur sa politique jeunesse, avec beaucoup de consommation et beaucoup d'addiction chez les jeunes. Et en une 20aine d'années, elle a vraiment redressé la barre. Elle est devenue un modèle en Europe. Et elle a utilisé cet outil d'évaluation des politiques. Donc c'est vraiment un outil qui est pour nous de la statistique, et on s'appuie sur la DAS pour l'ASS pour pouvoir le mettre en place. Mais après, c'est chaque collectivité, c'est chaque établissement scolaire qui s'approprie les résultats de son établissement, de sa commune ou de sa province pour nous, pour essayer de faire de la politique chirurgicale au niveau de la jeunesse.
Donc on le disait, 2e édition de cette enquête Bien dans mes claquettes. Il y avait eu 2022, l'enquête n'a pas pu se tenir en 2024 pour les raisons qu'on connaît, cette violence insurrectionnelle qui a touché la Nouvelle-Calédonie. Il y a donc eu cette enquête en 2025. Concrètement, d'un point de vue méthodologique, Eric Hartmann, comment ça se passe, l'Agence sanitaire et sociale pilote. Comment vous avez mis en place cette étude ? Combien de questions, à qui ça s'adresse et sur quelles thématiques, par exemple, vous avez travaillé ?
En fait, on a repris l'enquête qui avait déjà été menée en 2022 en y apportant quelques modifications suivant les demandes et les besoins, forcément, parce que les besoins évoluent. Donc, le questionnaire a été un peu modifié pour s'adapter donc, aux besoins actuels. Ensuite, au niveau du déroulement, on avait des équipes d'enquêtrices qui ont été formées pour faire passer le questionnaire sur tablette à tous les élèves donc de 3e scolarisés en province Sud. Ce questionnaire comportait 189 questions et balayait les différents champs de vie des jeunes, aussi bien le champ familial, le champ individuel, avec leur consommation, leur estime de soi, mais aussi le champ scolaire, comment ils se sentent à l'école, est-ce qu'ils sont conscients de leurs compétences scolaires, leur champ de loisirs aussi, s'ils font du sport, une activité physique, et bien sûr le champ familial, comment ça se passe à la maison, dans quel milieu ils vivent, etc.
Donc c'est une enquête anonyme, c'est ça, les jeunes répondent anonymement ?
Oui, complètement. Et c'est sur volontariat. Enfin, s'ils ne veulent pas répondre, on ne les force pas. Ils sont bien entendu, ils ont le droit de ne pas répondre au questionnaire. Le questionnaire est totalement anonyme, il n'y a aucun moyen de retrouver un jeune par les questions auxquelles il a répondu. Et en fait, après, avec toutes ces données, on les récupère, on les analyse et ça permet en fait de produire les résultats qui sont publiés dans le rapport de la province Sud.
Donc c'est quelque chose de déclaratif. On peut considérer que c'est fiable d'un point de vue statistique ?
Oui, parce que de toute façon, il y aura peut-être toujours quelques... Bien entendu, on voit toujours des élèves qui répondent des choses de manière un peu alambiquée. Donc déjà, on a un nettoyage quand même de la base pour avoir des résultats qui soient fiables. Et ensuite, c'est le type d'erreur en fait, qui est productive, on peut dire, d'une enquête à une autre. Donc, ça va pas, déjà, ça compte pas énormément, c'est très, très faible. Et en plus, voilà, c'est quelque chose qui va être souvent revu et que ça va pas jouer, en fait, vraiment dans l'interprétation des résultats finaux.
Thierry Vincent, c'est une initiative de la province sud, mais qui, finalement, intéresse beaucoup aussi le vice-rectorat. Vous avez besoin de savoir un petit peu l'état de santé des élèves et leurs habitudes ?
Oui, alors pour nous, c'est effectivement un process qui est très important parce que ça nous permet effectivement, comme ça a été dit, d'avoir une vision, on va dire, globale. Je rappelle aussi que pour nous, c'est un exercice qui est très intéressant au niveau de la démocratie scolaire, puisque les élèves ont été directement interrogés, on leur pose des questions. Très souvent, on entend dire que, ben oui, la jeunesse s'exprime pas, ils n'ont pas droit à la parole, ou voilà, on n'a pas trop de retour sur ce qu'ils pensent. Alors là, on peut voir que sur les 14-15 ans, 2323 élèves qui ont participé, un taux de participation de 85%. On est donc quand même sur un échantillon qui a du sens. Et ça donne encore plus d'intérêt et de poids aux questions et aux réponses qu'ils ont pu formuler. Alors, pour le vice-rectorat, on y voit aussi des avantages extrêmement intéressants parce que ça nous permet d'avoir des retours sur la vie de l'élève en dehors du collège. Nous, on les connaît au collège, on les connaît quand ils sont à l'école. Mais cette question-là leur pose aussi des questions sur des habitudes, sur des organisations de vie, sur des pratiques qu'ils ont en dehors de l'école. Donc ça nous permet d'avoir un profil, on va dire, un petit peu plus fin des élèves, de façon à pouvoir intervenir. Et en fonction de ces résultats, ça nous permet d'adapter aussi notre stratégie pour chaque établissement, puisque l'intérêt également que l'on a, c'est que les résultats sont donnés par établissement. Chaque établissement a un retour de ce qui le concerne directement. Effectivement, il peut y avoir des écarts, des différences entre différents établissements, suivant leur situation géographique en province sud. Et là, ça permet vraiment à chaque établissement de pouvoir calibrer, de pouvoir adapter son projet éducatif, peut-être rajouter des actions, peut-être en laisser certaines si on se rend compte qu'elles portent leurs fruits, et donc mettre des axes d'effort sur des problématiques que l'enquête aurait décelées. Donc pour nous, c'est important dans la mesure où ce projet éducatif, il est actualisé et qu'il s'adosse au projet d'établissement, qu'il est présenté en conseil d'administration. Ça permet aussi, par ce biais-là, d'associer les parents, parce que je crois que dans cette enquête, c'est très très important qu'on puisse avoir un retour sur les pratiques à la maison. Ça peut être sur les addictions, sur l'usage du numérique, sur un certain nombre de choses qui nous confortent ou nous renforcent dans l'analyse qu'on peut avoir de notre public de troisième.
Alors justement, quels sont les grands enseignements de cette enquête, puisqu'on sait qu'aujourd'hui on peut comparer par rapport à ce qui avait été fait et réalisé en 2022. On a des indicateurs quand même qui sont plutôt au vert, si je puis dire, notamment sur les consommations.
Oui, tout à fait. On voit sur les produits addictifs, donc alcool, tabac, cannabis et cigarettes électroniques, une baisse qui est effectivement vérifiée au niveau statistique. Donc il y a un vrai changement de comportement des jeunes qui consomment moins. Alors, ce n'est pas aussi détaillé que dans le baromètre santé jeune. Nous, on les interroge sur des consommations au cours des 30 derniers jours et les feux sont déjà, entre guillemets, au vert. Donc, c'est déjà une satisfaction là-dessus. Et c'est vrai que c'est un travail commun de tous les services, que ce soit à toute échelle, dans les établissements, dans les communes, à l'échelle de l'agence sanitaire. Donc, il y a une vraie satisfaction de tous et de la province.
Comment on peut l'expliquer ? Il y a une prise de conscience de ces jeunes ou...
C'est un travail à travers différentes approches, où on essaye d'avoir des approches innovantes aujourd'hui, l'approche par les pairs, essayer de travailler le marketing social, le travail qui est fait aussi au niveau éducatif, sur l'esprit critique, et donc ne pas se faire, entre guillemets, embarquer dans, par exemple, les publicités qui vont attirer la cigarette électronique. On voit quand même qu'il y a un gros marqueur là-dessus. Ce sont beaucoup les filles qui sont ciblées. Et effectivement, ce sont beaucoup les filles qui fument de la cigarette électronique, parce que les publicitaires, c'est leur cible. Elles sont roses, parfumées. Et donc, le travail qui est fait au sein des établissements, mais aussi autour, c'est de travailler cet esprit critique sur la publicité, de ne pas se faire... Donc, ça porte ses fruits tout doucement. On est quand même assez satisfait de cela.
Sur la cigarette électronique, si on peut donner des chiffres, c'est vrai que c'était un gros problème il y a 3 ans, on s'en souvient. Il y avait eu des campagnes de communication notamment, et puis des textes aussi qui avaient été pris pour limiter cette consommation des cigarettes électroniques. On était à 60% de consommateurs en troisième.
Oui, et là, on est à 50%. Donc on est voilà, on est parti de haut, hein, 50, ça fait encore un jeune sur deux, donc c'est encore important. Toutefois, on se dit voilà qu'en 3 ans, nous avons déjà une baisse significative, donc c'est encourageant sur le travail, comme décrivait Monsieur Vincent, qui est porté et qui nous permet de dire bon, continuons sur cet axe de travail. Et c'est cette synergie justement entre tous nos services qui permettent cela, certainement. Voilà, sur le bilan positif.
Gilles Brial, on disait beaucoup d'acteurs sur la jeunesse au niveau des institutions, mais il y a évidemment le cadre familial et qui est peut-être en première ligne pour justement empêcher les jeunes de consommer. Et là aussi, il y a des choses assez significatives qui ressortent de cette enquête, c'est que certaines familles sont assez conciliantes sur les consommations, notamment d'alcool et de tabac.
Oui, parce qu'on se focalise beaucoup sur le rôle des collectivités et de ceux qui accompagnent. Mais le noyau principal, c'est le noyau familial. Et il y a vraiment, malheureusement, des spécificités calédoniennes. On a du mal à avoir une identité calédonienne, mais on a malheureusement des spécificités calédoniennes sur la consommation de tabac. Il y a 11%. Et donc là, on parle quand même de jeunes qui sont en troisième, donc qui ont 14 ans en moyenne. Il y a 11% d'entre eux qui disent que leurs parents ne feront rien ou trouveraient normal qu'ils fument. Et pour l'alcool, mais ce chiffre monte à 22%, c'est-à-dire qu'il y a 22% des parents qui trouvent normal qu'un enfant de 14 ans, ou en tout cas, il ne serait pas sanctionné s'il consomme de l'alcool. Et quand on regarde de plus près les consommations, on se rend compte que ceux qui ont consommé de l'alcool, eh ben, ils le font beaucoup en famille. Alors, une spécificité calédonienne également, c'est qu'ils le faisaient dans des activités sportives. Donc, là, nous, en tant que collectivité qui finance les clubs de sport, on a écrit au club pour leur dire que le rôle d'encadrant sportif, ben, c'est pas de permettre à des jeunes de 14 ans de boire de l'alcool après les activités. Mais il y a une prise de conscience, il y a une communication qui est à faire en fonction des familles, c'est-à-dire finalement le rôle de la parentalité. Et ce qui nous manque peut-être encore aujourd'hui, c'est cette école de la parentalité. Et il y a des chiffres comme les sorties seules après 19h. Il y a un quart des jeunes qui disent qu'ils sortent seuls après 19h et qu'un quart également ne savent pas où, leurs parents ne savent pas où ils sont quand ils sortent seuls. Le soir. Donc ça, ce sont des chiffres qui sont inquiétants, parce qu'évidemment, si vous sortez seul, vos parents ne savent pas où vous êtes, ben vous êtes plus enclin à aller soit consommer de l'alcool, ben soit avec en bande, aller faire des petits larcins. Et c'est paradoxal, parce qu'à côté de ça, on voit dans l'étude qu'il y a 70% des jeunes qui demandent à passer plus de temps avec leurs parents. Il y a une partie, il y a presque 20% qui considèrent que leurs parents ne passent pas de temps, ou quasiment pas de temps après les cours, mais par contre on a 70% d'entre eux qui disent qu'ils veulent avoir plus de contacts, plus d'échanges avec la famille. Donc on a, dans les années qui viennent, on a un vrai travail à faire également sur la parentalité, se décharger sur le système éducatif, c'est-à-dire les enseignants pour éduquer les enfants. Non, les enseignants ils sont là pour leur apprendre des savoirs, mais l'éducation de se faire à la maison et les règles doivent se faire également à la maison.
C'est important la maison. Je m'adresse au vice-rectorat parce que c'est vrai qu'on dit souvent que c'est de la faute de l'école si tout va mal.
Non, c'est très important. Hein. L'éducation, elle est reçue aussi, bien évidemment, à la maison. Et on fait tout pour travailler au maximum avec les parents. Et je note d'ailleurs que dans cette enquête, moi, j'étais assez satisfait de voir les résultats concernant l'assiduité. Puisqu'on a vu qu'effectivement, au niveau de l'assiduité, donc l'absentéisme, hein, si on veut l'absentéisme scolaire, on avait gagné 14 points par rapport à l'enquête de 2022. Donc c'est un point extrêmement important parce que beaucoup de travail a été conduit avec de vive force, si j'ose dire, entre les établissements et les parents pour faire en sorte de faire comprendre aux parents que c'est absolument indispensable d'envoyer l'élève à l'école et qu'il ne faut surtout pas qu'il sèche les cours. Il ne faut pas qu'il y ait d'absence, le moins d'absence possible. Et là, on se rend compte qu'on a vraiment progressé sur l'assiduité depuis 2022. Donc, ce sont des tendances que nous vérifions, nous avons vues au vice-rectorat et j'étais très satisfait de voir qu'effectivement, cette enquête corroborait complètement la dynamique que nous, on observe depuis quelques temps. Donc, c'est très positif et là, effectivement, le rôle des parents est essentiel. Un élève qui va pas en classe, qui va pas au collège, et il est évident que le parent il est prévenu, on le reçoit, il y a énormément de choses qui sont faites, et moi je me dis que ce résultat-là, avec ce qu'on a aussi par ailleurs, les enquêtes qu'on fait au vice-rectorat, ça nous conforte dans le travail qui a été conduit, qui a été mis en place par les équipes de vie scolaire, les conseillers principaux d'éducation, les adjoints d'éducation, pour continuer ce maillage très fin avec les parents, ce discours, ce dialogue, pour les faire venir, pour leur faire comprendre la nécessité vraiment d'envoyer les enfants à l'école.
La lutte contre le décrochage scolaire. Alors Gilles Brial, vous en parliez il y a quelques instants, fin de la troisième mi-temps dans les clubs de sport, c'est-à-dire qu'on limite l'alcool et c'était un vrai problème puisque vous en aviez parlé à l'époque. Malheureusement, parmi les points noirs un petit peu de cette enquête, c'est que les jeunes font aussi moins de sport. Donc fin de la première et de la deuxième mi-temps également pour eux.
Oui, alors on a une particularité, hein, c'est qu'entre les deux études, il y a eu les événements de l'année dernière, avec une et l'étude de cette année a été, l'enquête a été menée en 2025. Donc malheureusement, en 2024, on a perdu beaucoup d'équipements sportifs. Dans les communes de l'agglo, on a perdu du monde qui s'occupait des associations sportives et culturelles, et on estime qu'une partie importante de cette baisse est liée à ça. L'autre partie peut être liée au fait que malheureusement il y a 14 000 personnes qui ont perdu leur emploi en Nouvelle-Calédonie, et dans les dépenses du ménage, quand vous perdez des ressources financières, vous vous concentrez sur l'essentiel et vous estimez que les activités sportives et culturelles ne font pas partie de l'essentiel. D'abord, vous cherchez à vous loger et à nourrir votre famille. Donc on a eu une baisse, et malgré tout, on a une demande de trouver... Enfin, ils nous disent qu'ils ne sont pas assez au courant des activités qui sont proposées. Donc, hier, l'État a présenté le pass culture, qui est un des outils qui va permettre ces accès. Nous, on a le dispositif Click and Move, qui est issu de la première étude. L'étude ne fait que nous donner des informations, et après à nous en charge de mettre en place des leviers pour nos politiques publiques. Mais il y a encore des efforts à faire. Parce qu'après, ce qui est important, c'est de croiser les résultats et de pouvoir, par exemple, constater que plus un jeune est occupé, il y a des activités sportives, culturelles, artistiques, plus il est encadré par ses parents, et moins il va y avoir d'addiction, moins il va y avoir de consommation, moins il va y avoir d'actes de délinquance. Donc il faut qu'on soit à même de proposer les différentes collectivités. C'est pour ça que ça, c'est une étude qui est portée certes par la province, mais qui est mise à disposition de l'ensemble des acteurs, qu'on soit capable de proposer justement ces activités aux jeunes pour qu'ils aient leur petite décharge d'adrénaline et qu'ils préfèrent être encadrés. Donc c'est la nécessité de professionnaliser également le monde associatif. Plus on les encadre, plus on les occupe, et mieux ils sont dans leur vie, et moins on a de décrochage, moins on a d'actes de délinquance, moins on a de consommation d'alcool.
Oui, donc c'est pas un simple diagnostic finalement, c'est vraiment une aide de prise à la décision concernant les politiques publiques. Au niveau de l'Agence sanitaire et sociale, quand vous analysez cette enquête et ce questionnaire, sur quoi vous mettez l'accent? Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans les résultats que vous avez pu retrouver?
Moi, en tout cas, personnellement, ce qui m'a marqué quand j'ai analysé donc les résultats de Bien dans ma claquette, c'est déjà tout ce qui avait été cité, l'assiduité, la baisse des consommations, même la baisse de certaines violences. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est les inégalités entre les filles et les garçons. Parce qu'on fait aussi une analyse donc par genre, et on voit sur certains volets, par exemple, les consommations de cigarettes électroniques, les filles consomment plus, elles sont aussi plus souvent victimes de violences. Elles ont une estime d'elles-mêmes qui est plus faible que les garçons. À côté de ça, les garçons, eux, ils vont se débrouiller, seuls quand ils ont des problèmes. Ils vont moins ils ont moins de personnes ressources vers qui se tourner quand ils se sentent mal. Enfin, et je pense que c'est aussi peut-être un point sur lequel travailler pour diminuer ce genre d'inégalité qui est quand même très très marqué.
Et il y a des marqueurs aussi, on le disait, par rapport aux situations géographiques entre les collèges de Brousse, je suppose, et puis des communes de l'intérieur et ceux de l'agglo. Est-ce que vous avez noté, on en parlait tout à l'heure avec le côté vice-rectorat, mais est-ce que vous avez noté des choses assez marquantes qui pourraient peut-être aiguiller les politiques de la province en fonction des territoires?
Alors, pour les analyses de cette année, elles sont encore en cours. Mais sur les analyses de 2022, oui, on voyait des différences, ce qui était souvent lié d'ailleurs aux offres qu'il pouvait y avoir sur des territoires, le fait que ce soit des territoires éloignés, participer. Et d'où, effectivement, après, des actions qu'on va conduire pour favoriser ces territoires-là, apporter un peu plus d'offres, mettre l'accent sur ces territoires pour retrouver une équité, finalement, dans les politiques qu'on va conduire en direction des enfants. Sur les éléments marquants également, la santé mentale était quand même un élément très fort qu'on a relevé, notamment avec 60% des enfants qui sont angoissés sur l'avenir, donc ce qui questionne plein de sujets. sujets, évidemment ce qu'on a vécu l'an dernier, mais aussi l'orientation, le stress, l'avenir, comment nous, en tant qu'adultes, parents, on accompagne voilà, cette angoisse sur l'avenir. C'est aussi la question de, effectivement, ne pas demander d'aide. 71% aujourd'hui ne demandent pas d'aide quand ils ont des difficultés. Donc, ce qui nous questionne, alors qu'on met en place plein de services, des points d'écoute, et on se rend compte que ils ne les perçoivent pas. Ce qu'ils perçoivent, c'est leurs amis. Donc, on va travailler avec des dispositifs, plus par les pairs, des jeunes de leur âge qui vont les accompagner pour aller vers le service. Parce qu'aujourd'hui, ils ne savent pas y aller seuls. En tout cas, ils ne nous repèrent pas.
Sur cette question de la santé mentale et de la crainte de l'avenir et même de l'angoisse de l'avenir, est-ce qu'on a une analyse fine de ce qui peut provoquer cela ? Parce qu'on le disait, il y a eu évidemment ce qu'on a vécu, il y a peut-être l'orientation professionnelle, le manque de débouchés, les gens qui ont perdu leur emploi. Est-ce qu'on a une analyse fine ? Est-ce qu'ils expliquent pourquoi ils ne se sentent pas bien ?
Non, on n'est pas allé jusque-là, en fait, dans la question. Après, cette question-là, c'était la première fois qu'on l'a posée. Elle n'avait pas été posée en 2022. Après, il y a quand même déjà 189 questions dans le questionnaire, donc malheureusement, on ne peut pas approfondir tous les sujets, même si ce serait très intéressant. Peut-être que ça peut être une enquête supplémentaire à réfléchir, mais non, par contre, on ne sait pas qu'est-ce qui les angoisse précisément.
Ça vous a surpris, Gilles Brial, d'un point de vue peut-être politique, cette santé mentale des jeunes ? C'était une volonté déjà de savoir dans quel état ils étaient, et puis peut-être le résultat qui vous surprend ou pas ?
Oui, en fait... Vous dites qu'on a un pays qui est magnifique, mais finalement, on voit que l'ambiance extérieure pèse sur le moral des jeunes. Malgré tout, on a un bon système éducatif. Il y a quand même un tissu associatif relativement important. Et on a encore des jeunes qui ne se sentent pas bien. Donc, c'est-à-dire qu'on a encore du travail à faire pour créer ces liens, d'abord d'accompagnement pour ceux qui sont vraiment en difficulté, c'est ce que Carmela disait, ceux qui sont seuls avec leur peine, hein, finalement, mais également continuer à faire des liens avec tout le tissu qui entoure les jeunes aujourd'hui, autre que le tissu scolaire, donc tout ce qui est le monde associatif, parce qu'encore une fois, nous, l'étape pour nous... Ce que ça déclenche, c'est la nécessité de professionnaliser le secteur associatif, sportif et culturel, et d'amener des outils. On parlait des fois de carence d'activité dans certains lieux. Mais par exemple, à Thiot, on finance donc le groupement d'employeurs sportifs de la province sud, et ça permet de mutualiser des moyens et d'avoir des éducateurs qu'on peut aller mettre à certains endroits et qui vont pouvoir proposer des activités. Et on l'a fait à Thiot et on voit qu'il y a eu une amélioration des conditions des jeunes de Thiot quand on l'a fait. Donc on a encore besoin de développer davantage ces outils de professionnalisation, mais pour qu'il y ait une prise en charge de cette jeunesse et dans la professionnalisation, c'est être capable de détecter quand un jeune va mal, qu'il le garde pour lui sur son changement de comportement. Donc voilà, c'est vraiment mettre des politiques pour essayer de leur rendre le smile, quoi, le sourire.
Quel avenir pour cette étude Bien dans mes claquettes ? On sait que les finances des collectivités sont contraintes, on a le vote du budget d'ailleurs de l'Assemblée de la province sud jeudi. Concrètement, est-ce qu'il y a des mesures qui vont sortir rapidement de la part de la province ?
Alors déjà, la première mesure qui est importante à notre sens, c'est de pérenniser cette étude. Parce qu'elle est pertinente, parce qu'elle est bien faite. On se repose nous complètement sur la SS qui a la capacité technique et la connaissance de terrain qui nous a permis de tropicaliser. On n'a pas que changé le nom par rapport à ce que faisait l'Islande avec les claquettes, mais on a vraiment essayé d'adapter à nos besoins. Et ça, pour moi, quels que soient les exécutifs qui vont se présenter à la province, je considère qu'il faut continuer à porter ça et continuer à le diffuser à l'ensemble des partenaires. Pas que les collectivités, vraiment tous ceux qui interviennent. Et ensuite, c'est, je le disais, c'est comment on adapte nos politiques de manière chirurgicale. Là, on voit qu'il y a des endroits, il y a moins, par exemple, d'accès aux activités sportives. On est en train de travailler avec les communes. Nous, on a des collèges publics en province sud avec des plateaux sportifs qui, jusque-là, étaient fermés pendant le soir et les vacances scolaires. Et on est en train d'essayer de les équiper et de faire des conventions avec des communes pour pouvoir ouvrir ces plateaux sportifs aux associations communales. Hein, c'est pas de l'ouvrir à n'importe qui, mais des associations qui encadrent les jeunes et qui puissent les utiliser. Et ça veut dire qu'on amène une activité de plus et on permet aux jeunes du quartier d'avoir cette occupation. Donc cette étude nous permet de voir où il y a des carences et puis de voir comment, avec ce qu'on a aujourd'hui comme moyen, on peut débloquer ces verrous-là.
Antoine Comboiré était à votre place il n'y a pas très longtemps d'ailleurs en invité du matin et il disait effectivement cela, c'est important aussi de laisser les clés à certaines personnes pour qu'elles puissent organiser des activités sportives. Ça va être un axe de travail aussi pour vous d'avoir des bénévoles, des personnes ressources sur le terrain ?
Oui, nous la province, on est propriétaire des collèges, on les construit. Donc ça veut dire qu'on doit modifier les plateaux sportifs pour pouvoir permettre l'accès extérieur. Ça veut dire qu'on doit mettre des éclairages, ça veut dire qu'on va mettre des vestiaires pour ceux qui viennent de l'extérieur. Et le rôle, c'est de pouvoir s'appuyer vraiment sur des associations, sur la gestion, parce que malgré tout, ça reste des équipements publics. Et donc là, c'est la confiance et c'est le travail qui se fait avec les communes, parce que les maires qui sont plus proches du terrain sont plus à même de nous dire sur quelle association on peut s'appuyer pour ouvrir ces plateaux sportifs. Mais ces 20 collèges publics qui existent en province sud, ces 20 plateaux qu'on peut ouvrir demain, donc ça fait beaucoup de jeunes qu'on peut toucher, et sur des associations différentes. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'une association qui a accès, mais dans la semaine, vous avez 5 jours, vous avez les semaines de vacances, donc il peut vraiment y avoir une utilisation de proximité. Donc, et cette étude, elle nous permet d'approfondir là où sont les besoins.
Et le vice-rectorat, peut-être qu'il y a aussi des questions de rythme scolaire, d'organisation des cours dans la journée pour permettre ces activités peut-être plus saines que de laisser des jeunes en divagation, si je puis dire.
Oui, mais c'est déjà le cas dans certains établissements scolaires où effectivement, ça a été dit, hein, à partir du moment où les plateaux sportifs seront sécurisés et permettront de faire en sorte que les activités peuvent se dérouler en toute sécurité pour les élèves, pour les associations, mais également pour la direction de l'établissement, s'assurer que les choses se passent très bien, ça pose aucune difficulté. C'est un équipement public, c'est de l'argent public, donc il faut que ça serve au public. Donc que ce soit pour les élèves ou pour... ce sont les mêmes, hein, c'est-à-dire que ce sont les élèves qui, le week-end, sont dans des associations et pourront bénéficier aussi de ces infrastructures, donc c'est normal qu'il faut les rentabiliser. Mais il faut s'assurer, et c'est bien le cas, c'est bien la façon dont c'est fait actuellement, s'assurer qu'effectivement toutes les mesures de sécurisation soient bien mises en œuvre. J'ajoute que sur cette enquête, elle est énormément de vertu, et ce qu'on pourrait un petit peu regretter du point de vue du vice-rectorat, c'est qu'elle ne soit pas conduite aussi en province nord et dans la province des îles, parce qu'il y a quand même des vertus qui sont tout à fait bénéfiques pour les établissements scolaires et pour les élèves. Et donc ces éléments-là, bon, on les a sur une province, on ne les a pas sur l'ensemble du territoire, et c'est peut-être un petit peu dommage, parce que ça nous permettrait de mettre en place aussi des synergies aussi intéressantes que celles qu'on peut mettre là actuellement, si on pouvait aussi développer tout ça sur l'ensemble du territoire.
Ça pourrait être une volonté politique d'avoir une enquête territoriale, Gilles Brial ?
Oui, nous, on ne demande que ça. C'est-à-dire qu'on a fait l'étape la plus importante, créer l'outil. L'ASS, encore une fois, l'agence est vraiment au point à ce niveau-là. Il y a la méthodologie. Nous, on donne le truc clé en main à la province nord, à la province des îles, s'ils veulent l'utiliser. D'ailleurs, quand il y avait eu l'expérimentation il y a quelques années, on avait choisi une commune, on avait fait Conné et la commune de Nabéa et celle du Mont-d'Or sur l'expérimentation. Et la problématique des jeunes, elle est existante sur l'ensemble du territoire. Donc nous, sans aucun problème, on met notre... tout ce qui a été conçu à disposition des deux autres provinces pour le faire. Certes, c'est un budget, mais je pense que c'est un vrai investissement et on a besoin, encore une fois, d'outils d'évaluation de nos politiques. Et ce qui s'est passé l'année dernière ne peut laisser personne sensible. Et on sait qu'il y a une problématique de jeunesse en Nouvelle-Calédonie, pas sur la majorité des jeunes. Et on voit que 72% d'entre eux font des activités sportives, sont bien de ça. Donc, mais il y a une petite partie de la population qui ne va pas bien. Il faut être capable de les évaluer, de savoir où c'est et de savoir quels sont leurs besoins et d'essayer de les apporter.
Alors, vous donnez toute clé en main. Est-ce qu'on peut retrouver justement les résultats de cette enquête, peut-être en ligne, quelque part, pour consulter ? Je pense que ça intéresse beaucoup de gens de savoir comment se portent nos jeunes, finalement.
Oui, tout à fait. C'est sur le site de la province sud, hein, donc https://province-sud/bdmc2025.
Tout simplement.
Voilà, tout simplement. Bon, ils auront toutes les données. Voilà.
Eh bien, merci à tous les quatre d'être venus nous en parler ce midi. Pour aller plus loin, rendez-vous donc sur le site internet de la province. Ce magazine sera disponible en réécoute sur notre site internet, le www.rrb.nc, en rubrique podcast, d'ici quelques minutes. La suite sur Radio Rythme Bleu, on va ouvrir le Café Gourmand. Et juste après, eh bien, il y aura le flash de 13h qui sera le dernier point sur l'actualité de cet infomag.
Le magazine citoyen avec la province sud, une province citoyenne.
La Province Sud, agir pour l'avenir.